RCF.
Vous êtes sur RCF, le 18-19 en région, présenté ce soir par Alexis Claudretz.
Bonsoir à toutes et à tous. Ce mercredi, on est très heureux de vous retrouver pour vous accompagner jusqu'à 19h avec une panoplie d'invités qui nous attendent autour de la table. Ce sont nos habitués du mercredi, on peut le dire comme ça. Dans quelques instants, on retrouvera Robert Reverger que l'on va saluer. Bonsoir Robert.
Bonsoir à tous, bonsoir.
Avec un mot que vous allez décortiquer, quel est-il aujourd'hui ?
Libéralisme.
C'est en plein dans l'actualité aussi, libéralisme, et on en parle depuis des années finalement.
Longtemps, oui.
On va voir comment il a aussi évolué au fil des âges. Ce mot donc, libéralisme. Nos habitués du mercredi, ils sont là, ils sont prêts à décortiquer et décrypter l'actualité politique du moment. Fernand Tavares, journaliste parlementaire. Bonjour Fernand.
Bonjour Alexis.
L'actualité est bien chargée, encore une fois, au niveau parlementaire.
Au niveau parlementaire et surtout une actualité qui est redevenue un petit peu moins de politique politicienne en raison de la splendide réception des uns et des autres aux Invalides, les Israéliens meurtris dans leur famille qui ont perdu des enfants, l'Israélo-français en présence de tous les composantes, de toutes les composantes politiques. Il n'y a pas eu un faux pas. Peut-être un tout petit faux pas avant d'entrer aux Invalides, mais c'est tout.
C'était ce matin, évidemment, cet hommage aux victimes françaises du Hamas. On aura l'occasion d'y revenir avec vous d'ici quelques minutes, Fernand Tavares. Et puis nous avons Hervé Causse, notre universitaire, qui est là pour nous parler lui aussi politique et notamment de François Bayrou. Hervé, bonsoir.
Bonsoir François Bayrou, et parler un peu du MoDem, parce que François Bayrou,
tout seul,
ça n'est mieux sorti que le MoDem, qui, vous le savez, vient de l'UDF, et mieux sorti que les membres du MoDem.
Bon, on vous retrouve dans une poignée de minutes également pour en parler. Elle est là, à nos côtés, elle a pris la place du chef ce soir, au moins au niveau de la chaise et du micro, Mélissa Tavares, notre stagiaire à la rédaction. Bonsoir.
Bonsoir.
On te retrouvera pour la page météo, ça sera à l'intérieur du journal régional de 18h30. Voilà pour le sommaire de cette émission. Nous, sans plus tarder, on retrouve Robert Reverger. Donc Robert, bonjour.
Bonjour Alexis.
Le mot du jour, libéralisme. Comment on le traduit ce mot, Robert ?
Eh bien, c'est un mot que l'on entend souvent, mais qui mérite peut-être d'être défini un peu plus précisément. C'est ce que nous allons essayer de faire.
Une définition simple, Robert, ça nous conviendra très bien.
Eh bien, écoutez, comme pour la plupart des mots, le sens du mot libéralisme a évolué. On peut dire qu'il a eu deux définitions qui peuvent s'appliquer à ce mot. Donc, une définition qui avait cours jusqu'à la chute de l'Empire. Et puis une définition, disons, plus philosophique, plus humaniste, et à partir du milieu du XVIIIe siècle, plus précisément avec la Révolution française, une définition politico-économique actuelle.
Vous vous doutez bien qu'avec ces éléments, Robert Reverger, on a envie de vous interroger sur le sens de ce mot libéralisme. Et d'abord, quel sens avait-il en philosophie jusqu'à la chute de l'Empire, donc ?
Eh bien, il vient du latin liberalis, qui est lui-même dérivé de liber, qui signifiait homme libre. Il était la doctrine des libéraux qui prônait les libertés individuelles dans tous les domaines, principalement la liberté d'expression, dans le respect du droit, bien sûr, et le libre-échange des idées. Il renvoyait, on peut dire, à une idée de, à un esprit de générosité, de noblesse, on va dire, de libéralité. Voilà. Il prônait alors le contraire de l'autoritarisme et de l'absolutisme.
Est-ce que l'on peut dire que c'était par opposition à la monarchie autoritaire ?
Dans un premier temps, oui, avant d'être brandi contre l'Église, puis contre le socialisme, lorsque celui-ci se répandra vers 1848.
Justement, Robert Reverger, vous avez évoqué l'Empire. Sait-on quelle était la vision du libéralisme de Napoléon, Napoléon Ier, évidemment ?
Oui, bah écoutez, d'après les historiens, Bonaparte se voulait, je le cite, le témoin des idées libérales, au sens premier du mot, bien sûr, mais lorsqu'il devint Napoléon Ier, il n'appliqua jamais ce programme, si tant est que ce soit un bon programme.
Comment définir alors succinctement le libéralisme économique tel qu'on le connaît depuis le milieu du XVIIIe siècle, donc, jusqu'à aujourd'hui ?
Oui, ben, il faut résumer, depuis ce temps-là et jusqu'aujourd'hui, donc, le libéralisme défend la libre entreprise et la non-intervention de l'État dans le secteur économique. Il défend donc le marché et ses lois, ou encore la libre concurrence, en un mot, le capitalisme. Autrement dit, lorsque chaque individu œuvre dans son propre intérêt, La somme de ses actions concourt à l'intérêt général. C'est le thème. Le célèbre économiste Adam Smith, qui était chef de file de ce courant d'ailleurs, explique que l'économie générale fonctionne grâce à ce qu'il nomme une main invisible qui assure le flux entre l'offre et la demande, l'offre provoquant la demande et non l'inverse.
Est-ce que l'on peut donc, Robert Reverger, résumer ce libéralisme par la célèbre formule « laisser faire, laisser passer » ?
Tout juste, formule que l'on attribue à un certain Vincent de Gournay en 1752.
Nous savons que ces thèses ont été et sont encore remises en cause.
Oui, par exemple, la crise de 1929 a plongé les États occidentaux dans le chaos après le krach de Wall Street, évidemment.
Une crise qui a été sans précédent et qui a laissé des traces, des lourdes conséquences, Robert
Reverger. Oui, cette crise met un terme pour quelques décennies à la spéculation et à la consommation des années folles.
Comment cette crise économique se traduit-elle dans les faits ?
En résumé, par deux faits principaux. Le taux de chômage s'envole et l'activité économique s'effondre. Alors, un célèbre économiste anglais de l'époque, John Keynes, propose alors, contrairement à beaucoup d'autres économistes, de faire intervenir l'État dans l'économie par différentes politiques, principalement budgétaires ou fiscales, partant du principe d'égalité entre épargne et investissement. La plupart des ménages, toujours selon Keynes, épargnant toujours une partie de leurs revenus. C'est ce qu'on appelle le keynésianisme.
Robert Reverger, je me permets, j'essaie de vulgariser, de résumer ce que vous nous racontez à l'intérieur de votre chronique. Il défend donc ce que nous appelons l'État-providence. En France, le quoi qu'il en coûte. Ce principe a-t-il été appliqué et a-t-il eu des effets positifs ?
Oui, cette politique économique a été appliquée durant de nombreuses années par les pays occidentaux. Avant d'être remise en cause dans les années 70, la combinaison de l'inflation et du chômage ayant montré les limites de la politique keynésienne.
Qu'en est-il de nos jours ? Le sens du mot libéralisme évolue-t-il dans la réalité de notre quotidien ?
Eh bien, aux yeux de nombreux États, le libéralisme pur apparaît comme une abstraction. Dans les années 30, déjà, l'écrivain chrétien Daniel Robbs affirmait « Nous sommes dans la période du libéralisme bâtard qui n'ose plus dire son nom et fait sournoisement appel à l'État, son vieil adversaire ».
Qu'est-ce que l'on doit conclure de tous ces éléments que vous nous présentez aujourd'hui ?
Il est bien difficile de faire entrer une idée exprimée par un seul mot, que ce soit libéralisme, étatisme, socialisme, dans les réalités vécues qui sont, comme chacun sait, rebelles, qui sont têtues, qui sont souvent contradictoires. Dans l'usage, on fait souvent porter un chapeau au mot libéralisme.
Un chapeau, c'est-à-dire Robert ?
Ah oui, excusez-moi, je veux dire un préfixe. Et l'on parle d'ultra-libéral que l'on oppose à social.
Merci Robert Reverger de nous avoir éclairé sur la définition du libéralisme, de nous avoir présenté ce mot et bien plus. La semaine prochaine, on parlera de quoi ? Un rendez-vous pour nos auditeurs ?
Eh bien écoutez, nous parlerons de prolifération.
Là encore, c'est dans l'actualité. Merci Robert Reverger, à très bientôt.
Merci.
Le 18-19 sur RCF.
Ils sont restés dans le studio, ils sont là, ils attendent leur tour. Fernand Tavares, journaliste parlementaire, Hervé Causse, universitaire. On va prendre l'actualité dans l'ordre chronologique de la semaine et c'était il y a déjà bientôt 48 heures. Bayrou relaxé dans l'affaire des parlementaires, Hervé Causse. Si l'on fait une photographie de ce qu'il s'est passé, c'est assez étonnant, François Bayrou qui s'en sort bien par rapport aux autres membres du MoDem.
Oui, alors par rapport aux autres membres du MoDem, il faut redire les choses très très simplement. Le MoDem était poursuivi, François Bayrou était poursuivi avec des parlementaires et des responsables du parti. Autrement dit, il y avait une personne morale, le parti politique. Un parti politique, c'est une association, et des personnes physiques qui étaient poursuivies. Poursuivies pour des emplois d'assistants. Qui faisaient quoi ? Qui étaient le parquet reprochait la poursuite. Le procureur de la République reprochait que ses assistants n'aient pas eu un emploi à Bruxelles ou à Strasbourg, mais qu'en fait, ils travaillaient à ne faire que de la politique et non pas faire du travail législatif à Bruxelles ou à Strasbourg. Et c'était considéré comme du détournement de fonds. Donc, une affaire qui a duré 7 ans, qui a, Fernand, a eu une grave conséquence au début de l'accès au pouvoir de Macron, puisque Bayrou était ministre d'État et qui a été obligé de démissionner. Et avec lui.
Garde des Sceaux.
Et avec lui, d'autres ministres MoDem. Et pendant 7 ans, évidemment, il y a eu enquête, juge d'instruction, police, etc. Et le résultat, le jugement, c'est tout le monde est condamné, sauf François Bayrou, alors président du MoDem.
Il s'en sort plutôt bien. Comment on explique cette différence de traitement? Est-ce que c'est un traitement de faveur, Hervé Causse?
Alors, évidemment, les réactions sur les réseaux sociaux sont souvent très négatives, même si François Bayrou a une certaine cote et qu'il y a toujours quelques-uns qui le soutiennent. Mais grosso modo, les gens parlent de foutage de gueule, parlent de scandale, parlent de ce que vous voulez, mais les gens ne comprennent pas. Replaçons les choses dans le code pénal de 1994, très simplement. Depuis 1994, le président d'une personne morale ou le gérant d'une société qui est une personne morale, bref, d'une association, d'une société, peut être condamné et la société peut ne pas être condamnée. Mais à l'inverse, la société, l'organisation peut être condamnée pénalement sans que la personne physique qui la dirige soit condamnée. Ça a été considéré comme un grand progrès du code pénal. À la fois pouvoir poursuivre les personnes morales, mais aussi pouvoir distinguer la personne morale du dirigeant. Parce que parfois, le dirigeant n'a pas tout pu maîtriser et n'a pas tout vu.
Relaxé, faute de preuves, il disait dans le JT de France 2, il n'y en a pas. Si je ne suis pas condamné, c'est parce qu'il n'y a pas de preuves. Si on ne trouve pas de preuves, c'est parce qu'il n'y en a pas.
Dans les commentaires de François Bayrou, il en a fait quelques-uns, notamment sur Twitter. Il est passé aussi en plateau télé. C'est la phrase la mieux, si j'ose dire. Parce qu'effectivement, quand il dit, écoutez, depuis 7 ans, policiers, juges d'instruction cherchent, et ils n'ont pas trouvé... finalement, ils n'ont pas trouvé un email, ils n'ont pas trouvé une lettre, ils n'ont pas trouvé de quoi dire que c'était moi qui avais donné instruction aux parlementaires d'employer des gens en partie pour le MoDem à Paris. Bien sûr, j'étais président. On peut considérer que moralement ou autrement, du point de vue organisation, j'aurais dû savoir. Mais il se trouve que je ne savais pas. Et donc, ça a marché. Et ça a marché. Parce que c'est quand même François Bayrou, parce que peut-être un petit dirigeant de société, on dirait, non, c'est pas possible que vous n'ayez pas connu. Mais là, le juge a dit, il faut des preuves, j'ai pas de preuves. Et dans ce cas-là, l'article 427 du Code pénal permet, au bénéfice du doute, de dire, on relaxe. Donc on acquitte, si vous voulez, pour utiliser un mot plus courant, mais devant le juge correctionnel, c'est la relaxe.
Il n'y a pas de lien de cause à effet direct, Hervé Causse, mais ça tombe quand même plutôt bien, question timing, au moment où on parle de Bayrou qui pourrait intégrer le gouvernement avec ce remaniement qui est en cours et pourquoi pas retourner à l'éducation nationale 30 ans après.
Alors oui, ça tombe bien pour lui parce qu'effectivement, le gouvernement est pas totalement fait, qu'il est même peut-être en voie de refondation en partie, sauf s'il y avait appel. Mais a priori, comme le parquet a mis très longtemps à faire sortir cette affaire, les juges d'instruction également, la relaxe a une portée très, très importante, quoi, parce que sinon, on va dire, mais la justice s'acharne à certains égards. Or, évidemment, il y a toujours un conflit entre les deux pouvoirs, le pouvoir de justice et le pouvoir d'exécutif. Il faut que l'exécutif puisse fonctionner et qu'il ne soit pas arrêté par les juges. C'est quand même ça la base de la démocratie. Donc oui, ça tombe bien politiquement pour lui, comme on peut dire trivialement, en 48 heures, et il est arrivé à se refaire la cerise à 72 ans. C'est pas mal, c'est un homme qui dure. On l'aime ou on l'aime pas, mais en tout cas de cause, on constate qu'il est tenace.
Alors dans cette affaire, il y a des députés européens qui ont été condamnés. Tout simplement, un assistant parlementaire est recruté par l'élu et non pas par le parti politique. Ceci explique en partie cela. François Bayrou était président du parti, mais il n'était pas président de chaque député élu. Chaque député a géré son assistant parlementaire comme il l'a voulu. Ça se fait au Parlement européen, ça se fait aussi à l'Assemblée nationale. Et théoriquement, on n'a pas à rendre compte, au président du parti en tant que tel.
Voilà. Et donc ce qu'il a plaidé, c'est qu'il n'y avait pas de système, c'est-à-dire que ce n'est pas lui en tant que président de parti qui avait dit « Messieurs les députés, chers amis, vous mettez vos assistants parlementaires payés par Bruxelles à la disposition du MoDem à Paris ». Voilà, c'est ce qu'il est arrivé à prouver et voilà pourquoi il est relaxé.
Alors il y a une autre personnalité politique, Marine Le Pen, qui va avoir à rendre des comptes dans le même processus.
Ça, ce sera une autre chronique.
Affaire à suivre, on en fera un autre sujet, 18h25 sur les antennes de RCF.
À Reims, Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Hervé Causse, Fernand Tavares qui sont toujours avec nous. On a clos le sujet Bayrou. Robert Reverger est resté sur le plateau. Si vous voulez intervenir, Robert, évidemment, vous avez la parole. On a pas mal de choses à dire. Fernand, on est en direct. On se fait le programme comme ça de l'émission
oui,
en direct.
Tout à fait,
ben on vous retrouve déjà dans un premier temps. Et puis, on vous retrouvera aussi dans la deuxième partie d'émission après le journal régional. Et puis après, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort qui sera en direct avec les prêtres du diocèse de Reims et des Ardennes, mais également de la province depuis Ars où ils sont actuellement. Fernand Tavares, l'actualité du jour, c'est peut-être ce qui touche le plus, c'est vrai que c'est un grand moment d'émotion, c'est l'hommage aux victimes françaises du Hamas du 7 octobre dernier, aux Invalides ce matin, il y a une sorte d'unanimité politique et même d'une unanimité du peuple français.
Tout à fait. Aux alentours des Invalides, il y avait beaucoup, beaucoup de monde, des Français, des Israéliens qui avaient fait le déplacement pour venir à Paris assister à cette cérémonie. Lorsque les hommes politiques sont passés, les députés comme les sénateurs et les ministres, il y a eu un silence total, sauf à l'extérieur, quand les représentants de la France insoumise se sont pointés devant les Invalides, il y a eu quelques huées, quelques sifflets. À l'intérieur, c'était silence radio, unité nationale pratiquement totale.
Alors, juste pour contextualiser, Fernand, pourquoi la France insoumise n'était pas le bienvenu à cet hommage ?
Par rapport à l'appréciation qu'ils avaient donnée sur les événements du 7 octobre, à l'intérieur de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, où ils ont refusé de condamner le Hamas ou de dire que le Hamas était une entreprise terroriste.
On en revient sur cette unanimité parce que c'est vrai que vous vouliez quand même souligner l'importance de ce moment.
Oui, parce que le président de la République, dans ses propos, évidemment, il s'est mis à la place des familles qui sont touchées, qui ont perdu des enfants, qui ont perdu des proches, des familles qui attendent aussi. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse et je la referme parce que ce soir, il est annoncé officiellement que le Hamas et Israël serait tombé d'accord. Alors évidemment, je le mets avec pointillé.
C'est au conditionnel, on marche sur des œufs.
Mais on marche sur des œufs, mais on l'entend tellement. Apparemment, dans les heures qui viennent, peut-être dans la matinée de demain, on verra peut-être une forme de libération des uns et des autres et des deux côtés. Alors je ne sais pas s'il y en aura 40 d'un côté et 300 de l'autre. Les chiffres sont les mêmes qu'il y a quelques semaines. Mais apparemment, il semble qu'il y ait une ouverture. Pour en revenir à la cérémonie cet après-midi, c'était un moment d'union et d'unité nationale. Ça explique peut-être pourquoi le président de la République est resté dans ce cadre-là uniquement et qu'à aucun moment il n'y a eu un déplacement ou une parole de politique politicienne, alors que tout le monde attendait un renouvellement ou de nouvelles nominations de ministres qui on attend toujours. Donc ça n'était peut-être pas le moment. On verra demain.
Fernand Tavares, merci pour cet éclairage. On vous retrouvera juste après le journal régional. Mais il faut dire qu'il y avait aussi les questions gouvernement aujourd'hui, un sujet d'actualité que vous avez déjà évoqué avec Jean-Pierre Benoît, je crois que c'était la semaine dernière, et la situation à Mayotte qui ne s'arrange pas.
Alors, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, deux questions sur Mayotte comme la semaine dernière. Et à ces deux questions, le Premier ministre a répondu en premier, et puis au Sénat, c'était le ministre de l'Intérieur. Tout ça pour dire que sur le stade de Mayotte, déjà la semaine dernière, il y avait 700 immigrés qui s'étaient pointés et qui sont toujours sur place. 200 ont été ramenés un petit peu vers leur pays d'origine. Mais il y a une question dont on n'a pas encore parlé beaucoup sur les antennes, c'est que le Premier ministre a dit au président du groupe Les Républicains cet après-midi, faisant référence à la censure du Conseil constitutionnel, qu'il y avait une difficulté pour expulser ces immigrés de façon, comment dirais-je, rapide, parce qu'un des articles du Conseil soumis au Conseil constitutionnel avait été censuré. Et le Premier ministre a annoncé et a proposé aux parlementaires de revoir cet article, de le réécrire et de le représenter au Conseil constitutionnel de façon à ce que les choses soient facilitées.
Ça interpelle. Un article censuré qui revient sur la table, tout de suite, ça fait...
Ça interpelle parce qu'il s'agit de donner une certaine liberté au gouvernement, notamment, et aux responsables locaux de pouvoir, entre guillemets, expulser ceux qui sont vraiment indésirables sur le territoire français.
Merci Fernand Tavares, vous restez avec nous. Ceux qui ont envie de se libérer, vous pouvez vous libérer. Ceux qui veulent rester, vous restez. Vous êtes évidemment les bienvenus. Nous, on passe au journal régional. Juste après, on retrouvera Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort qui sera en direct depuis Ars pour évoquer une rencontre entre les prêtres du diocèse de Reims et des Ardennes, mais tous les prêtres de la province avec les évêques. Voilà, 18h30, c'est le journal. On peut envoyer le jingle, Fabrice. Les titre de ce mercredi 7 février à la rentrée de septembre 2024, le lycée Sévigné de Charleville-Mézières proposera un DTS imagerie médicale et radiologie thérapeutique pour faire face au manque de manipulateurs radio en France et plus particulièrement dans les Ardennes. Installé au centre-ville de Châlons-en-Champagne, le jardin éphémère fait son retour jusque fin février avec comme thème les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Un diplôme de technicien supérieur, imagerie médicale et radiologie thérapeutique sera mis en place dès la rentrée 2024 au lycée Sévigné de Charleville-Mézières. Face au manque de manipulateurs radio en France et notamment dans les Ardennes, le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes a pris le problème à bras-le-corps en réunissant autour de la table les différents partenaires susceptibles de pouvoir mettre en place une nouvelle formation dans le département, à savoir un établissement scolaire, le rectorat, mais aussi la ville de Charleville-Mézières, Ardennes Métropole et la région. Une formation sur 3 ans, ponctuée de stages sur les plateaux techniques de l'hôpital, mais aussi dans des cabinets de radiologie privée. Thomas Talek, directeur du CHINA, nous dresse l'état des lieux de cette profession.
La situation est tendue, puisqu'en France, on compte 6000 postes de manipulateurs en radiologie vacants. Probablement d'ailleurs que cette situation est sous-estimée. Dans les Ardennes, la densité de manipulateurs en radiologie est la plus faible du Grand Est. Donc la conséquence, quelle est-elle? C'est que les délais de prise en charge augmentent, que ce soit sur les machines qui font le diagnostic ou des machines qui font du traitement. Je pense à la radiothérapie, par exemple, ou la médecine nucléaire. Et donc, il faut réagir. Il fallait réagir et la réaction, c'est de pouvoir former plus de manipulateurs radio. Il y a une formation dans le Grand Est, une formation de qualité, mais qui n'arrive pas du tout à satisfaire les besoins.
Des besoins grandissants dus au nombre toujours plus important de machines dans des domaines qui progressent en permanence, radiologie, radiothérapie, médecine nucléaire. Rien que sur le CHINA, le taux de vacance de postes de manipulateurs radio est de 25%. Une première promotion de 18 étudiants verra donc le jour en septembre. Pour cette formation de 2100 heures avec 20 semaines de stage en première année, 24 en deuxième et 26 semaines en troisième année, un projet datant de 2022 est repris en septembre par le nouveau proviseur du lycée Sévigné, Éric Plaff.
J'ai bien vu l'urgence et la nécessité pour le territoire ardennais. Et puis, je me suis dit qu'en même temps, par rapport à nos lycéens, puisqu'on avait au lycée Sévigné des baccalauréats généraux, avec des spécialités scientifiques, hein, des baccalauréats STL, sens de laboratoire, ST2S, etc. Hein, c'est une formidable opportunité pour nos jeunes ardennais, qu'on ne sait pas très mobile, hein, en même temps d'avoir sur place une formation de grande qualité, hein, avec à la clé comme débouché bien plusieurs dizaines d'offres d'emploi et dans les Ardennes et dans les départements voisins. Donc, j'ai souhaité attendre la conférence de presse, hein, avant de communiquer. J'avais toujours un œil pratiquement tous les jours, 2 fois par jour sur Parcoursup. Hein. Il faut croire que le Parcoursup est bien fait, hein, la formation est apparue dès décembre. L'ouverture s'est faite à partir du 17 janvier. Hein. Donc le bouche-oreille commence tout doucement à faire son œuvre. Hein, et là, on a des candidatures à la fois sur Charleville, hein, établissement public, mais également privé, sur Reims, sur Strasbourg, sur Lille. Et on voit également des retours d'universités, hein, d'étudiants qui souhaitent peut-être, après une année un peu décevante, revenir vers une formation peut-être un peu mieux encadrée et extrêmement porteuse.
Le besoin urgent de ces professionnels assurera aux futurs étudiants des débouchés et donc une facilité à trouver un emploi dès le DTS en poche. Notons qu'il existe aujourd'hui 2 formations équivalentes pour devenir manipulateur radio. Une 20aine d'instituts et écoles en France proposent le diplôme d'état de manipulateur d'électroradiologie médicale. Ils sont adossés à un CHU pour 30aine de lycées sur le territoire national proposant le DTS. La commune de Gueux s'associe à un nouveau partenaire pour dynamiser les activités autour de son célèbre circuit. En conseil municipal hier, c'est l'association Circuit Reims-Gueux Passion Légende qui a été retenue par la commission d'appel pour valoriser et pérenniser l'attractivité de ce site patrimonial de notoriété à minima régional. Pour la 9e année consécutive, un jardin éphémère prend place aux 4 coins du centre-ville de Châlons-en-Champagne. Le thème de cette année est tout trouvé, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Natacha Niquez, conseillère municipale déléguée aux événements.
Alors on va y retrouver différents îlots qui vont être tout autour du centre-ville. Il y a une soixantaine de structures qui ont été réalisées au travers de la ville. 15 personnes du cadre de vie qui sont mobilisées, mais autour il y a de l'aide des personnes de l'EPSM, des patients qui sont venus en renfort pour le jardin éphémère. Mais on a également le centre de formation agricole professionnelle de l'Épine qui lui est venu réaliser pour la deuxième année un îlot rue des Lombards.
Ce jardin est principalement construit à base de matériaux recyclés.
Le jardin éphémère est réalisé à 90% de matériaux recyclés. C'est des matériaux qui sont utilisés du marché de Noël, différents événements. Donc voilà, toutes les plantes, tout est fait en interne au cadre de vie, au serre municipal. Ça représente 4000 fleurs, plantes fleuries. On a 400 arbustes, 700 bulbes. Voilà, tout est réalisé en interne et ça, c'est plutôt chouette.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. Les décors imaginés par la direction du cadre de vie sont placés jusque fin février, place Foch, place de la République, patio Gantelet, église Saint-Alpin, rue des Lombards, rue Abbé Lambert, rue des Fripiers et Quai Barba. Situé au 32-36 rue Henri Barbus à Reims, le complexe sportif du même nom qui rendait hommage à l'écrivain, homme politique, journaliste et scénariste français de la fin du 19e et début du 20e siècle a été rebaptisé aujourd'hui gymnase Andy Miem, une basketteuse française née à Reims, multimédaillée avec l'équipe de France. Et sur les parquets, le Champagne Basket a réalisé la passe de 5 hier soir, 5e victoire consécutive pour l'Alliance Champenoise qui a dominé Denain-Voltaire, 80-58, un succès qui permet aux Marnais de poursuivre leur remontée au classement et de prendre la 9e place avec 9 victoires pour 11 défaites. Avant de refermer ce journal, place à la météo, c'est avec notre stagiaire à la rédaction, Mélissa Tavares. Bonsoir Mélissa.
Bonsoir.
Quelles sont les tendances pour ce jeudi en Champagne-Ardenne?
Comme ces derniers jours, ce jeudi, des précipitations seront attendues dans l'ensemble des départements de la Champagne-Ardenne. Le matin, la pluie envahira les départements des Ardennes comme à Charleville-Mézières, de la Marne à Cézanne et de la Haute-Marne à Langres. Quant aux Aubois, ils auront la chance d'échapper à la pluie. Les thermomètres afficheront au minimum 8 degrés et au maximum 12 degrés. Pour l'après-midi, pas de changement, sauf pour la Haute-Marne où la pluie prendra congé pour laisser place aux nuages. Malgré ce temps triste, les températures seront un peu plus agréables où le mercure grimpera au maximum jusqu'à 13 degrés. Demain, nous fêterons les Jacqueline. Nous vous souhaitons une bonne fête à tous.
Une bonne fête à toutes, Jacqueline. Merci, Mélissa. Ainsi se referme ce journal. Hervé Cause, Fernand Tavares sont toujours avec nous. On les retrouvera d'ici quelques minutes pour continuer de décrypter l'actualité parlementaire et l'actualité politique du moment. Tout de suite, on prend la direction d'Ars où sont réunis des prêtres du diocèse de Reims et des Ardennes, mais de toute la province avec les évêques. Et tout cela, ça sera au micro de Jean-Pierre Benoît dans quelques instants.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
Nous sommes en direct en effet à 18h38 dans ce magazine avec Mgr Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, mais aussi président de la conférence des évêques de France. Mgr, bonsoir.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je suis avec Mgr Vetteux,
Avec
le père Baptiste, bienvenue, avec le père Étienne Ouattu-Gilly. Et avec le père Michael Dupont.
Donc on va avoir tout au cours de cette émission, comme c'était prévu, un certain nombre de réactions des prêtres. Alors, Mgr, est-ce que vous pouvez déjà nous repréciser dans quel contexte vous êtes à Ars? Vous êtes à Ars depuis dimanche dernier. Combien de prêtres de la province et quel est le thème ou quels sont les thèmes abordés lors de cette session?
Voilà, donc nous sommes là tous les évêques de la province, avec 130 à peu près prêtres au total, dont une trentaine de Reims. Il y a eu quelques défections à cause de la grippe. Et nous sommes donc réunis pour réfléchir au sacrement du pardon et de la réconciliation, qui est prévu depuis 2 années.
Il faut dire, Mgr, que comme nous allons entrer mercredi prochain dans le carême, le sacrement de réconciliation, le sacrement du pardon qui nous emmène à Pâques va être un terrain, j'allais dire, qui va être souvent évoqué. Hein. C'est aussi dans ce cadre que ça se profile, que ça s'est profilé. Et puis peut-être aussi avec les abus sexuels dans l'Église. Là aussi, c'est abordé.
Voilà, il y a trois raisons, disons, à cette session. La première, c'est que c'est un sacrement très important, c'est un des actes propres des prêtres. Nous pouvons donner le pardon sacramentel de Dieu. Deuxièmement, on se rend compte que ce sacrement n'est pas très, certainement désaffection auprès de certains fidèles. Donc, il faut trouver des voies pour y appeler, pour le rendre plus compréhensible, plus attirant. Et puis, de fait, le rapport de la CIAS, la crise des abus, a manifesté que ça avait peut-être un lieu d'abus et il faut que nous nous mettions au clair pour que ça ne soit pas du tout. C'est au contraire un lieu de célébration de notre de la joie d'être dans l'alliance avec Dieu.
De façon globale, comment se déroule la session? Vous allez dire très bien, hein, certainement, mais comment ça se déroule?
Alors, Monseigneur Véteux va vous répondre.
Monseigneur Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims, est donc avec nous en direct. Monseigneur Étienne Véteux, bonsoir.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à tous.
On va vous retrouver d'ailleurs en direct vendredi, vous-même sur notre antenne. Mais comment vous vivez cette session, Monseigneur?
Déjà, le fait d'être aussi nombreux prêtres, évêques, c'est un magnifique moment de fraternité. Et on peut partager, créer des liens, prier ensemble, déjeuner, dîner ensemble. C'est aussi l'occasion de partager un thème qui est vraiment central dans notre ministère et puis d'approfondir. On a commencé par une perspective biblique, puis il y a eu une perspective historique. Ensuite, on a travaillé sur justement comment l'aborder à frais nouveaux dans la situation de crise des abus. Puis cet après-midi, une perspective théologique à partir du rituel. Demain, il y aura des ateliers et puis nous-mêmes, nous le vivrons. C'est important de se dire qu'un prêtre, à la fois, il reçoit un pénitent, il reçoit quelqu'un qui se confesse, mais lui-même, il est pécheur et il a besoin de se trouver devant la miséricorde de Dieu. Et donc, nous aurons nous-mêmes la possibilité de le vivre demain après-midi.
Nous alternons les conférences en grand groupe et puis aussi des temps d'ateliers.
Tant d'ateliers, tant de conférences, on peut dire que c'est une semaine bien, bien remplie. Enfin, vous n'avez pas, comme on dit, de temps mort, mais c'est vrai qu'il y a une richesse dans ces échanges.
Étienne ? Oui, en fait, on voit que c'est très important parce qu'avec les autres prêtres qui viennent des différents diocèses, ça nous permet d'échanger des expériences et de comprendre comment ça fonctionne. Parce que d'un prêtre à l'autre, il y a quelques nuances selon les personnalités, selon les diocèses. Tout cela nous aide et ça nous a permis effectivement de mettre les choses au point.
Il faut rappeler, Père Étienne, vous êtes de diocèse de Reims, vous venez d'un autre continent, et vous venez, je ne sais plus d'ailleurs de quel pays vous venez, Père Étienne, j'ai un trou de mémoire, et je ne sais plus non plus.
Du Rwanda.
Voilà. Et vous allez aussi, vous êtes dans un espace missionnaire dans le diocèse de Reims?
Oui, Tarde-Noivelle.
Ah, Tarde-Noivelle. Voilà. Et donc, on sait que Monseigneur Moulin-Beaufort avait envoyé une lettre à tout le monde, c'était dimanche dernier, pour dire... tous les prêtres vont être absents, beaucoup de prêtres vont être absents, mais c'est pour la bonne cause, eux aussi, ils ont besoin de formation. Merci en tout cas, Père Étienne, de votre témoignage. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, vous avez peut-être d'autres témoins autour de vous?
Oui, j'ai le Père Baptiste Bienvenu, par exemple, qui est là aussi, qui lui est à Charleville-Mézières.
Le Père Baptiste Bienvenu en direct sur RCF Reims-Ardennes, eh bien il est le bienvenu Baptiste, hein. On a dû vous le faire plusieurs fois, hein. Fabrice Gironnet rigole parce que c'est du style de ces moqueries. Alors Père Baptiste, comment vivez-vous ce temps et cette session sur le pardon ici à Ars?
Eh bien très bien pour ma part, voilà, beaucoup de choses ont déjà été partagées par les autres. Le fait de nous retrouver... nombreux, voilà, nous permet de prendre bien le temps d'échanger entre nous, entre nos différentes pratiques, la manière dont nous-mêmes, personnellement, nous pouvons vivre le sacrement et nous pouvons aussi en être les ministres. Et puis voilà, ça nous repose aussi, je pense, devant le grand mystère de la miséricorde de Dieu, la célébration de la miséricorde, parce que c'est vraiment ça qui est en jeu dans le sacrement du pardon. Voilà, c'est vraiment un acte fort, quoi, qui peut vraiment toucher les cœurs et mettre les personnes qui viennent vers nous, les mettre en relation avec Dieu. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup.
Je sens des moments...
Dans nos vies, on peut être un peu déçu par soi-même. Le sacrement vient nous redonner notre dignité de baptisé.
Monseigneur, ça veut dire aussi que pour les prêtres du diocèse, c'est un moment très très fort, parce que c'est l'occasion aussi pour tous les prêtres diocésains de se retrouver avec vous, autour de vous, avec d'autres prêtres, des évêques. Ça, c'est quand même un moment, quand même, vous l'avez déjà dit d'ailleurs, Monseigneur, mais assez exceptionnel.
Tout à fait, ben, le père Baptiste a un petit peu dit, le père Étienne aussi. Il y a des prêtres qui viennent de tous les continents maintenant dans nos diocèses. Donc c'est intéressant aussi d'échanger à partir des pratiques et de la réflexion qui est portée dans d'autres continents. Et puis il y a des prêtres qui se retrouvent aussi parce qu'ils ont été ensemble au séminaire, qui se connaissent, et c'est assez joyeux. Je pense qu'ils sont assez joyeux de se retrouver. Je vais demander au père Michael Dupont de répondre aussi.
Oui, le père Michael Dupont, qu'on connaît bien, est dans la région de Fismes, bien sûr, qui se trouve à Ars. Nous sommes en direct avec vous aujourd'hui. Père Michael Dupont, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Alors, vous vivez comment cette... Vous voulez ajouter quelque chose, mais vous vivez intensément cette session avec les 135 prêtres là, qui sont là.
En effet, il y a le côté fraternel de retrouver ceux avec qui j'ai été formé dans les deux séminaires auxquels je suis allé, et puis aussi de rencontrer d'autres, de faire connaissance avec d'autres, d'avoir des échanges sur l'ordre de la fraternité, sur ce que l'on vit, sur les questions qu'on peut porter. Et puis par rapport au sacrement de la réconciliation, je puisque c'est la question qui nous préoccupe ces jours-ci, c'est aussi une session qui nous remet devant, j'allais dire, cette grandeur, cette dignité de notre ministère que de célébrer cet acte au nom de l'Église, au nom du Christ, et d'accueillir dans ce cadre-là des personnes qui font appel à nous, qui font appel à l'Église, qui font appel au Christ, qui font aussi appel à notre foi, notre ministère. Et finalement, reprendre à nouveau frais ces questions et les actualiser, les approfondir, par les enseignements, mais aussi par le partage entre frères, avec les questions qu'on peut se poser, c'est vraiment retrouver une belle dignité, la belle grandeur de ce ministère qu'est ce sacrement, entre autres.
Monseigneur, vous êtes toujours avec nous. Merci, Père Michael Dupont. Monseigneur, on peut dire qu'on aura l'occasion de refaire un point avec Monseigneur Étienne Véteux. Ce sera vendredi matin. Mais pour vous-même, globalement, quelles images, quels moments forts vous retenez, Monseigneur? Et puis peut-être ceux qui sont avec vous.
Bah, certainement, pour moi, par les offices que nous célébrons ensemble. Hein, d'ailleurs, la cloche sonne pour nous appeler aux vêpres. Donc nous allons y aller, mais ce sont des beaux moments. Enfin, c'est toujours réjouissant d'être ensemble à prier, à louer le Seigneur, et puis vraiment de découvrir combien nous sommes formés aussi par les uns et les autres, par la célébration de ce sacrement. Nous sommes au service de la miséricorde de Dieu, au service de la rencontre d'une âme, d'une personne avec Dieu, et découvrir comment tous, de manière différente, nous convergeons dans ce même service. C'est très, très réjouissant.
Eh bien, merci en tout cas, puisque les vêpres vous appellent, Monseigneur, on ne va pas vous retenir davantage. On vous remercie de vous être prêté à cet exercice avec autour de vous Monseigneur Véteux et puis un certain nombre de prêtres que nous connaissons bien du diocèse de Reims et des Ardennes. On les remercie tous, vraiment. Nous sommes de tout cœur avec vous, en communion et en prière avec vous pour cette session qui s'achève vendredi soir. On sera en direct vendredi matin avec Monseigneur Véteux. Très, très bonne fin de journée, Monseigneur.
Merci Jean-Pierre, merci à tous et merci à toutes.
Voilà,
à
merci beaucoup avec Alexis et toute l'équipe ici. Et on est très heureux de vous avoir eu en direct et on vous retrouve vendredi. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.
Le 18-19 sur RCF.
18h48 sur RCF France Ardennes, RCF Cœur de Champagne, avec nos amis Hervé Cause, Fernand Tavares qui sont restés, Jean-Pierre Benoît. Vous prenez le programme politique en cours, vous vous greffez à nous.
Et j'ai pas pu entendre des réactions à propos de François Bayrou. Je sais que
on a parlé de François Bayrou, on a parlé des Invalides, on a parlé de Mayotte. Et cette fois, on va parler des agriculteurs.
Justement, Fernand, qui aime bien l'actualité, elle nous avait proposé de faire réagir Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort sur les Invalides. Mais je crains, et c'est pour ça que je n'ai pas relevé la question, que Monseigneur Moulin-Beaufort, au cours de cette journée, ne soit pas branché comme vous sur la chaîne parlementaire toute l'après-midi et les débats de l'Assemblée, et qu'il est au courant, hein, mais qu'il est peut-être un peu en retrait par rapport à cet événement.
Oui, mais par rapport à la phrase du président de la République, rien ne doit jamais nous diviser, ça s'adressait certes à tous les politiques qui étaient présents, mais ça va au-delà.
C'est ça, vous avez raison Fernand, mais il faudrait s'interroger aussi sur la présence des différentes communautés religieuses lors de ce rassemblement. Et on aura d'ailleurs des questions là-dessus. Alors Alexis, je vous laisse parce que vous avez amorcé le débat tout à l'heure, donc vous le poursuivez, et je ne sais pas à quel endroit exactement vous en êtes arrivé.
Eh bien, on va parler des agriculteurs, parce qu'il y a une crise agricole, des annonces qui ont été faites, et le salon de l'agriculture qui se profile à partir du 24 février, Fernand Tavares. Votre optique, c'est de dire on va remettre sur la table quoi qu'il en coûte, dont on parlait tout à l'heure avec le libéralisme, avec Robert Reverger d'ailleurs.
Bah, quand on écoute le gouvernement, quand on entend les parlementaires, quand on entend les agriculteurs qui sont retournés dans leur région, on a l'impression qu'ils se sont livrés et qu'ils se livrent encore aujourd'hui à une véritable course contre la montre, parce que le salon de l'agriculture pointe à l'horizon. Dans quelques jours, fin février, ils seront tous là. Et d'ici la fin du mois de février, ce que voudraient les agriculteurs, c'est des choses concrètes. Alors, le gouvernement a déjà lâché beaucoup de choses, lâché de nombreux millions pour essayer de satisfaire les uns et les autres. Le prix du carburant, la loi Egalim, le fait des importations qui devront être mieux surveillées, dans les grandes surfaces, mieux filtrer ce qui est vendu, si vraiment c'est conforme à la loi française, dans l'intérêt des agriculteurs français, etc. Ça va aller très vite, mais il faut donner du temps au temps. C'est ce que dit le gouvernement. Certes, on a un peu le sentiment que quoi qu'il en coûte, il faut que le gouvernement lâche quelque chose aux agriculteurs de façon qu'ils arrivent un peu plus détendus, c'est le moins qu'on puisse dire, dans ce salon qui rassemble des centaines et des centaines d'agriculteurs et d'éleveurs. Donc voilà, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que d'ici la fin du printemps et surtout le début de l'été, il y aura encore une autre question qui va être soulevée. C'est pas tellement dans le monde agricole, c'est dans le monde de la santé. Et Catherine Vautrin, la nouvelle ministre de la Santé, est intervenue au Parlement aujourd'hui deux fois de suite. Parce que qu'est-ce qu'on lui demande à Catherine Vautrin et à son ministère ? C'est de faire en sorte, par exemple, que dans les urgences, ça cesse. Il y a beaucoup de drames dans les urgences, beaucoup de monde. On fait la queue, on attend 4 heures, 5 heures. Il y en a même qui décèdent, faute de soins. Alors Catherine Vautrin a essayé d'expliquer que les choses allaient se faire, que les budgets étaient là, mais qu'évidemment, pour créer des postes d'infirmières, il faut les former, des médecins encore plus. Mais ce qu'elle a annoncé, un petit peu pour dire, voyez, on fait le maximum, c'est qu'avant l'été, dans chaque département de France, va être créé un service d'accès aux soins. Elle s'est engagée. Donc d'ici la fin, le début de l'été, c'est bientôt.
On aura bien sûr l'occasion de suivre de tout cela. Il y avait d'autres sujets. On n'a pas eu d'ailleurs dans l'actualité la formation du gouvernement complètement. Elle n'est pas tombée depuis quelques minutes.
Non, c'était pas le jour aujourd'hui. Aujourd'hui, il y avait les Invalides. Mais par contre, l'actualité qui reprend demain, ce sont les inondations dans le Nord-Pas-de-Calais. Et le Premier ministre, de nouveau, va faire un déplacement demain, parce que c'est quand même la catastrophe quand on voit ce qui se passe là-bas. Il faut absolument venir à leur secours, comme dans d'autres secteurs. On parlait des éleveurs et des agriculteurs. Mais là, sur le terrain, c'est encore autre chose. Demain, le Premier ministre et un certain nombre de ministres vont l'accompagner pour faire face aux urgences.
On aura bien sûr l'occasion d'évoquer tout cela. Hervé Causse, est-ce que vous avez un sujet de prédilection ? Vous avez évoqué certainement la distinction entre lorsqu'une décision de justice touchait une formation politique,
oui,
et son président. Vous l'avez fait, ça ?
On a parlé de ça. On a parlé avec Alexis de ce calendrier juridique ou judiciaire, plus exactement, qui vient de s'accélérer, peut-être de se terminer par François Bayrou, et donc, effectivement, il est en attente ou en négociation de voir s'il peut rejoindre l'équipe gouvernementale. Ça peut un peu étonner, parce que le ministère de l'Éducation, c'est un ministère qu'il a occupé très jeune, dans les années 90, et le voir revenir, c'est assez étonnant. Mais d'un autre côté, la ministre actuelle est tellement en indélicatesse. Les syndicats qui se servent de tout, ont l'occasion de la siffler et ils ratent pas les occasions pour affaiblir le pouvoir et donc eux-mêmes monter en puissance. Donc il n'est pas impossible que François Bayrou re-rentre, si je puis dire, si vous me permettez ce mot, dans le gouvernement. C'est quand même une actualité saisissante. En 48 heures, les choses ont totalement changé. Ouais.
Alors, évidemment, il y a... Vous aviez évoqué également Catherine Vautrin.
Les questions au gouvernement.
Avec les questions au gouvernement, mais...
Qui sont portées aussi sur Mayotte.
D'accord. Alors, Mayotte, je vous laisse, Alexis, si vous...
Bon, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, Fernand. C'est vrai que ça vous a interpellé, cette problématique autour de Mayotte, ces questions autour de l'immigration.
Tout à fait. Alors, Mayotte, on en a parlé la semaine dernière. La situation s'est aggravée. Et le Premier ministre parle aujourd'hui d'une situation insurrectionnelle. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que dans ce fameux stade de Mayotte, il y a 700 immigrés, il y en a 200 qui ont été déplacés, mais à cause de ce qui s'est décidé au Conseil constitutionnel, la fameuse loi sur l'immigration, eh bien le gouvernement ne peut pas tout faire. Il y a eu des articles de loi sanctionnés. Et pour la première fois, cet après-midi, le Premier ministre a pris les devants. Il a pris les devants vis-à-vis du président du groupe Les Républicains, M. Marleix, en lui disant « Certes, ce qui se passe à Mayotte, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas déplacer des gens comme ça, parce que la loi sur l'immigration, un article nous empêche de le faire. » Donc, ce qu'il a proposé, le Premier ministre, c'est de revenir sur cet article, de le rédiger d'une autre façon, de façon à ce que, représenté au Conseil constitutionnel, ça puisse passer, pour donner une certaine liberté d'action, parce que sur place, c'est compliqué. Il y a non seulement les Comores qui sont dans le coup, mais également la Corne de l'Afrique. Ça devient terrible. Donc le Premier ministre avait dit qu'il irait. Demain, il va ailleurs. Il va dans le nord de la France parce qu'il y a des inondations. Mais ça va très très mal. C'est à des milliers de kilomètres, évidemment, de l'Hexagone. Mais c'est vraiment très très grave.
Depuis qu'il a été nommé Premier ministre, Gabriel Attal est quand même pas mal mis sur la brèche.
Ah ben absolument. De toute façon, il essaie de faire face à tout, d'avoir une réponse à tout. Avec les agriculteurs, il est allé sur place une fois, deux fois, trois fois. Il va demain auprès des sinistrés des inondations dans le Nord-Pas-de-Calais une nouvelle fois. Et puis il faut aussi qu'il aille outre-mer, et notamment à Mayotte. Où
mais vous connaissez le fonctionnement parlementaire, Fernand Tavares. Est-ce qu'un ministre qui est tout le temps sur le terrain, tout le temps en déplacement, alors c'est bien, c'est une bonne image, on va à la rencontre des gens, etc. Mais est-ce que l'on fait avancer les dossiers pendant ce temps-là?
Ah ben, ceux qui sont au cabinet du Premier ministre ne doivent pas beaucoup dormir, parce que Gabriel Attal est un homme qui dort très peu, comme le président de la République, et qu'il faut vraiment travailler 24 heures sur 24. Il n'a pas beaucoup de temps, d'autant qu'il a un gouvernement restreint, que les autres ministres ne sont pas encore nommés en raison de l'actualité. Les priorités, c'est pas de nommer des ministres tout de suite. C'est de s'occuper d'Israël, c'est de s'occuper de la Palestine. Et c'est ça, les priorités. Les agriculteurs en second, ceux qui souffrent d'inondations en troisième, et également les pêcheurs. Il va falloir aussi là-dessus agir très vite.
Un complément, Evrikos ?
Oui, alors, c'est vrai que la question de savoir où doit être le dirigeant public, là, le Premier ministre se pose. Il faut qu'il soit un peu sur le terrain, il faut qu'il soit parfois un peu dans les dossiers, mais peut-être que les dossiers, c'est le moins important. En revanche, ce que doit faire l'autorité politique, enfin les publics aussi, c'est quand même déployer un discours. Et évidemment, les gens disent, les discours, c'est que des discours. Mais il y a quand même, quand on a un discours cohérent, et la cohérence, c'est pas répéter des slogans, vous voyez. Bon, vous voyez, par exemple, là, on va créer un service d'accès aux soins. Bon, les gens, ils veulent des médecins. Bon, si vous dites service d'accès aux soins, ça peut-être marcher 48 heures, 72 heures, mais ils veulent des médecins. Ils veulent un service d'urgence. Donc, travailler le discours politique, c'est quand même très important. Et pour l'agriculture, c'est important, parce qu'il y a quand même un équilibrage à faire entre l'écologie et la nouvelle agriculture qui est en train de se dessiner. Et les écologistes ripostent. Donc il faut quand même arriver à trouver un discours que les gens comprennent et dans lequel ils auront finalement foi, que ce soit pour la santé, pour la politique ou pour Mayotte. Et Mayotte, le juriste que je suis, est en train de se demander si à un moment donné, il ne va pas falloir pas utiliser un mécanisme constitutionnel très dur qui s'appelle l'état d'urgence. Parce que, quand on est en situation insurrectionnelle, ben, qu'est-ce qu'on fait ? On suspend toutes les libertés publiques et on fait ce qu'on a à faire.
Bon. Tout à l'heure, je parlais de course contre la montre. Une dernière observation. Derrière tout cela, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, qu'est-ce qui se profile à l'horizon ? Les élections européennes. Et en même temps, le combat que mène le gouvernement et une partie d'ailleurs des parlementaires contre le Rassemblement national. Monsieur le maire a eu un mot très dur à l'égard du Rassemblement national, lui rappelant qu'il avait été financé pour la campagne des présidentielles par la Russie. Et ce que fait le ministre, qui est un peu étonnant par les temps qui courent, c'est de dire « vous soutenez la Russie ». Alors restez dans votre coin et laissez-nous tranquilles.
Il a déjà utilisé cet argument. On aura l'occasion d'y revenir. Voyez, Alexis, ce débat, on pourra le poursuivre la semaine prochaine avec vous, si vous l'acceptez. Hervé Causse, Fernand Tavares.
Avec plaisir.
Et puis, on a des questions. Par exemple, l'international, on l'évoque peu, mais il y a quand même les élections américaines et on voit que le contexte est quand même assez particulier.
Tout va bien. Biden a parlé à François Mitterrand, écoutez.
Oui, alors ça.
Il paraît qu'il est conseillé par George Washington également.
Bon, je vois
c'est Non, c'est difficile. Hein. Bon, la démocratie est un exercice difficile et il faut se battre pour qu'elle vive. On peut plaisanter un peu, mais il faut surtout se battre sérieusement. Oui.
Et nous avons souvent une pendule et nous avons tous ceux qui nous disent et qui nous rappellent. Eh bien, il est bientôt 19h, Alexis.
Un rendez-vous demain, 18h10, le magazine régional avec nos amis de RCF Cœur de Champagne, RCF France-Ardenne. L'occasion de vous souhaiter une bonne soirée. Puis Jean-Pierre, je vous laisse faire le tour du plateau pour dire au revoir à tout le monde.
Oui, au revoir à tout le monde. Et puis Olivier Cuissard, le directeur de l'ICP Campus de Reims, sera notre invité demain matin à 7h. Très bonne journée.
Bonsoir.
Bonsoir.